France Musique. Dernier jour de la semaine, nous sommes le 15 mai et vous écoutez France Musique. Bonjour et bienvenue dans un instant et jusqu'à 9h, Jean-Baptiste Urbain et Musique Matin.
Merci d'avoir choisi France Musique, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Pendant le confinement, chaque jour, Renaud Capuçon a joué pour des dizaines de milliers de spectateurs via leurs écrans. Aujourd'hui, le violoniste est à l'initiative d'une série de concerts en direct, sans public. Il commence ses concerts demain. Renaud Capuçon sera notre invité à 8h50. La culture déjà visée par les économies budgétaires, la région Nouvelle-Aquitaine diminue de 100 000 euros sa subvention du théâtre Auditorium de Poitiers. Sophie Anastasio y revient à 9h20 dans Classique Info. Comment l'école normale de musique de Paris s'adapte-t-elle à l'enseignement à distance avec 75% d'étudiants étrangers? C'est un défi supplémentaire, nous expliquera Suzanne Gervais à 8h30. Et puis, au programme de cette première demi-heure également, Laurent Valero a choisi pour nous une musique de chœur. Il nous la présente à 8h20, enfin dans 10 minutes. Le conseil de spectacle en ligne à voir ce week-end, c'est avec Guillaume Thion de Libération.
Musique Matin. Jean-Baptiste Urbain.
Très bon réveil en musique, oublions-le, au réveil le virus avec Rameau. Voici Dardanus. Jean-Philippe Rameau, Dardanus, à tragédie lyrique de 1739 avec l'ensemble Pygmalion dirigé par Raphaël Pichon. Des extraits de Dardanus par ses musiciens et enregistrés à l'Opéra Royal de Versailles sont au programme de la soirée anniversaire que vous propose France Musique demain soir à 20h, soirée à l'occasion des 250 ans jour pour jour de cet opéra royal, inauguré donc le 16 mai 1770. Judith Chen qui rendra également hommage en fin de soirée à Gabriel Baquier. Ce sera aussi le cas demain matin à 11h chez Benoît Dutertre. Il avait reçu à plusieurs reprises le baryton qui s'est éteint cette semaine à quelques jours de ses 96 ans. On l'entendra chanter Gabriel Baquier, mais aussi parler avec sa verve, avec sa facon d'occitane. Faire vivre, faire rayonner les festivals malgré leur annulation, tel est l'engagement pris par France Musique pour ces prochains mois et notamment tout cet été. Et ça commence dès ce week-end car Jazz sous les pommiers aurait dû s'ouvrir aujourd'hui à Coutances. Alors demain matin sur France Musique, Priscille Lafitte va recevoir à 9h20 le directeur du festival Denis Lebas. Et puis demain soir à 19h, le Jazz Club d'Yvan Amar propose lui un concert donné à Coutances en 2017 avec Sylvain Riflet. D'autres rendez-vous de Jazz sous les pommiers vous attendent la semaine prochaine, on y reviendra. Parmi les têtes d'affiche de ce festival normand, eh bien le pianiste arménien Tigran Amassian. Il aurait dû se produire avec l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie. C'est partie remise. Et puis Tigran Amassian, le voici ce matin sur France Musique avec cette étude numéro 1 où l'on entend toutes ses racines, ses influences classiques. Piano de Tigran Amassian, étude numéro 1, un extrait d'un album paru en 2017. À Berlin, il n'y a pas que la Philharmonie qui se soit mise au concert en direct sans public. C'est le cas aussi du Schninkel Pavillon. Pavillon, cette institution artistique accueille depuis plusieurs semaines maintenant des musiciens pour des sessions sans spectateurs en chair et en os, mais beaucoup de spectateurs dans le monde entier sur leurs écrans. Demain soir, c'est l'un des plus grands quatuors allemands qui se produit au pavillon Schinkel, le quatuor Artemis. Les voici dans la musique de Beethoven. Thank you. Beethoven, le Scherzo du Quatuor opus 18 numéro 6, c'était le Quatuor Artemis. Il joue en direct au pavillon Schinkel de Berlin demain soir à 20h30 et c'est bien sûr en ligne. En ligne aussi, sur internet, sur le web, sur la toile, des spectacles à foison, mais quels sont les bons? Voici Guillaume Thion de Libération.
Bonjour Jean-Baptiste, cette semaine nous partons à Lille au début du mois de mars, juste avant le confinement. Souvenez-vous, y étaient présentées des Noces de Figaro un brin particulière, celle qui unissait Mozart à Arthur Lavandier. Alors Lavandier, on le sait, jeune compositeur plein de talent, est un habitué des revivals, des détournements et des tandems en milieu classique, puisqu'on lui doit par exemple une extraordinaire réinterprétation de la Symphonie Fantastique de Berlioz, ainsi que des arrangements divers, symphoniques ou mélodiques. À Lille, Lavandier a aussi composé le Premier Meurtre, opéra avec l'Orchestre du Balcon en 2016, ainsi que la Légende du Roi Dragon, opéra pour enfants en 2018. Et cette revisitation des Noces de Figaro est précisément arrangée dans la catégorie des œuvres pour enfants. Mais attention, pas n'importe quelle œuvre pour enfants. La plupart du temps, ces opéras sont des petites formes d'1h15 pour quelques instrumentistes. Ici, l'œuvre dure 1h15, mais c'est un orchestre au complet, celui de Picardie, qui interprète ce Mozart, un Mozart trafiqué, évidemment. Lavandier a surtout élagué la partition, il évite de jouer au fanfaron durant les nombreux arias, mais se lâche dans les interstices où on peut par exemple entendre du Radiohead au piano. Surtout, il trafique l'ouverture de l'opéra avec bonheur, détournant une ligne par-ci, accumulant par là les redites et les clins d'œil à Mozart, on entend par exemple Don Giovanni, tout comme à Berlioz. Le résultat détonne sans en faire des tonnes. Et puis, cet opéra pour enfants est par enfants. Contrairement à la légende du roi dragon, ici les gamins jouent et chantent sur scène, mais aussi dans la salle, oui, et aussi chez vous si vous n'y prenez pas garde. Une partie du public de gosses a un rôle, notamment durant la scène de la chasse, et chante pendant une bonne partie du spectacle. La mise en scène de Maëlle Dequiette, enfin, est suffisamment remuante pour intéresser les jeunes spectateurs. Elle commence par un long plan séquence où l'on découvre les coulisses de l'opéra, ainsi qu'une partie des chanteurs qui se préparent. La caméra remonte de nombreux couloirs, tel un écureuil qui visite le lieu. On se croirait dans un film de Sokourov pédago tourné dans les Hauts-de-France. Et puis surtout, l'ensemble, azimuté mais respectueux, parvient à faire oublier l'intrigue de ces noces, complètement hors de portée de n'importe quel être humain un peu solide dans ses raisonnements. Bref, pour fêter le déconfinement, mais pas forcément la reprise de l'école, allez faire un saut sur la page de l'Opéra de Lille et envoyez vos enfants à la noce.
Un extrait des Noces Variations, Mozart transformé par Arthur Lavandier, c'est donc à voir sur le site de l'Opéra de Lille. Internet c'est bien, mais les sorties physiques c'est mieux. Certains petits musées peuvent rouvrir depuis le début de la semaine partout en France. Et c'est le cas à partir d'aujourd'hui de l'Institut Giacometti dans le quartier de Montparnasse à Paris, pas très loin d'ailleurs de là où le sculpteur et peintre suisse avait son atelier. Alors il y a quand même des conditions, il faut réserver sur Internet, on y revient, Internet, venir aussi avec un masque, respecter une distance d'au moins 1,50 m entre chaque visiteur, mais enfin on sort là du tout numérique, c'est donc l'Institut Giacometti. Dans le travail du peintre, Paul Éluard pour les textes et Francis Poulenc pour la musique n'ont pas daigné s'intéresser aux œuvres de Giacometti. Dans ses mélodies, ils décrivent des œuvres de Miro, de Picasso, de Georges Braque ou encore ici, de Marc Chagall.
Au cheval, jusqu'à la peau d'un violon, un chanteur, un seul oiseau, danseur agile avec sa femme, couple trempé dans son printemps. L'or de l'herbe, le plomb du ciel, séparé par les flammes bleues de la santé, de la rosée, le sang cirise, le corps teinte, un couple de premier reflet. Et dans un souterrain de neige, la fille opulente dessine un visage aux lèvres de lune qui n'a jamais dormi la nuit.
L'addiction parfaite de Pierre Bernac, accompagné ici par Francis Poulenc dans sa propre musique, Marc Chagall, extrait du travail du peintre. Comme tous les jours, une voix de France Musique choisit une musique refuge, une musique qui fait du bien. Aujourd'hui, c'est notre camarade Laurent Valero. Repassez-moi le standard, c'est tous les dimanches à 19h. Ce matin, Laurent nous a déniché un disque qu'il vous sera assez difficile à trouver. Alors écoutez et profitez.
Musique matin à la maison.
Bonjour Jean-Baptiste, je suis ravi de m'adresser, grâce à vous, aux auditeurs de la matinale pour partager une musique qui fait du bien. La mienne ce matin sera plurielle, puisqu'il s'agit d'un medley ou un pot-pourri en bon français qui réunit deux mondes musicaux qui me sont chers, le tango et la musique de film, qui font ici, vous allez l'entendre, un très bon ménage. Cette plage fait partie d'un disque argentin autoproduit, réalisé en 2004 par deux amis musiciens, le pianiste et arrangeur Federico Mizrahi et son complice au bandoneon Luis Longhi, par ailleurs très bon comédien. Avec Christine Brebes au violon et Myriam Santucci au violoncelle, il nous propose un réjouissant parcours joliment croisé de très belles mélodies bien connues du cinéma mondial. Pour une fois, je n'ai pas envie ce matin d'annoncer ni les compositeurs ni les films en question. Je laisse à nos auditeurs le soin de le faire eux-mêmes. Ça fait partie, je pense, du plaisir de la découverte de ce bel arrangement. Une très belle journée à vous toutes et tous et je vous retrouve dimanche sur France Musique, bien sûr.
Thank you.
Alors vous avez reconnu Pas Facile, Nino Rota, oui, John Williams, Ennio Morricone ou encore Michel Legrand, mais aussi Luis Bacalov pour le film Il Postino. C'était Luis Longhi au bandoneon, Christine Brebes au violon, Myriam Santucci au violoncelle et Federico Mizrahi au piano qui signe aussi les arrangements. Le choix ce matin de Laurent Valeyroux. On le retrouve dimanche, Laurent, à 19h dans Repassez-moi le standard, autour du thème principal d'Henry Mancini pour le film The Days of Wine and Roses de Blake Edwards. Et à propos de cinéma, j'ajoute que demain à 13h sur France Musique, Thierry Jousse poursuit dans Ciné Tempo sa balade musicale dans l'histoire du Festival de Cannes. Pas seulement les films les plus connus d'ailleurs, ni des Palmes d'Or, mais aussi des raretés dont il a le secret. Que se passe-t-il dans la tête d'un chef ? Émotions, rythme cardiaque, pensées internes, entrer dans le cerveau d'un maestro pendant un concert, c'est ce que propose sur une étonnante vidéo qui a été mise en ligne cette semaine, Alexandre Bloch, le directeur musical de l'Orchestre National de Lille. Vous pouvez aller la découvrir sur le site de la formation lilloise. Alexandre Bloch, que se passe-t-il quand il dirige la musique de Charles-Marie Widor ? Eh bien, peut-être qu'il se dit qu'il a bien fait, Widor, de ne pas écrire que pour l'orgue. Charles-Marie Widor, la fin de son introduction et rondo pour clarinette et orchestre avec Anne-Lyne Van Vauve, l'Orchestre National de Lille, dirigé par Alexandre Bloch. Vous écoutez France Musique. Dans 20 minutes, Renaud Capuçon sera notre invité. Il lance une série de concerts, mais sans public. C'est à partir de demain soir en direct de la Fondation Saint-Gerre-Polignac à Paris. Une découverte à 9h moins le quart sur le disque Chausson, le littéraire qui vient de sortir de jeunes musiciens. Interprète une musique de scène écrite pour la tempête de Shakespeare et c'est un bijou. Et puis la culture sera-t-elle déjà visée par les économies budgétaires? La région Nouvelle-Aquitaine vient de diminuer de 100 000 euros sa subvention pour un théâtre. On y revient avec Sophie Anastasio dans 10 minutes. Mais pour l'heure, voici Suzanne Gervais. Bonjour Suzanne. Alors pour finir la semaine, vous aviez envie de nous parler d'un conservatoire un peu particulier. C'est l'École Normale de Musique de Paris, fondée par Alfred Cortot il y a plus de 100 ans.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Et oui, je tenais à parler du cas de l'École Normale de Musique, alias ENM, qui a la particularité déjà d'être 100% privée, et puis surtout d'accueillir, et ça depuis sa création, une grande majorité d'étudiants étrangers. Vous imaginez donc que la gestion de crise est particulièrement compliquée. Alors faire venir un maximum d'étrangers pour faire rayonner la musique française à l'international, c'était la grande idée, le dessein du pianiste Alfred Cortot, par ailleurs grand pédagogue, on le sait. La conséquence, c'est qu'un siècle après la création de l'école, 75% des 700 étudiants sont étrangers, issus d'une vingtaine de pays différents. Une auberge espagnole qui est installée dans le très chic 17e arrondissement de Paris et qui abrite la fameuse salle Cortot. 75% d'étudiants étrangers, dont deux tiers d'étudiants asiatiques. Le Japon, Taïwan et la Chine sont en tête. Le Brésil, les États-Unis, la Russie et les pays du continent sud-américain figurent aussi en bonne place. Alors comment est-ce que cette école internationale a géré la crise? Eh bien, une grande partie des étudiants sont rentrés en catastrophe dans leur pays d'origine et continuent quand même à avoir cours, ce qui implique que les étudiants s'adaptent au décalage horaire. C'est faisable en cours individuel, en fixant des rendez-vous tôt le matin ou tard en soirée, et c'est ce que font les profs, mais c'est un petit peu plus délicat pour les cours collectifs. C'est une école privée, ce qui veut dire que les étudiants payent cher, très cher, pour étudier au sein de l'école normale, alors que les cours continus, c'était absolument indispensable. L'autre priorité de l'école, en cette première semaine de déconfinement, c'est d'avoir maintenant l'autorisation de permettre aux étudiants qui sont restés à Paris, qui vivent souvent dans de petits studios, d'accéder aux salles de travail. C'est important notamment pour les pianistes. Alors comme les autres conservatoires, l'École Normale de Musique a profité de la quarantaine pour être plus présente sur les réseaux sociaux et sur YouTube, et de manière originale sur YouTube, puisque la classe de composition de musique à l'image organise de petites auditions en ligne. Je vous invite à aller jeter un œil si la musique de film vous intéresse. L'École Normale de Musique compte donc sur une reprise des transports internationaux en septembre. Eh bien, croisons les doigts.
Suzanne Gervais, musique connectée, à retrouver sur francemusique.fr. À lundi, Suzanne, Alfred Cortot avec Jacques Thibault au violon et Pablo Casals au violoncelle. Ils ont formé l'un des grands trios de l'entre-deux-guerres. Les voici dans la musique de Haydn en 1927, il y a presque 100 ans. Alors ça gratouille un peu, mais ça ne chatouille pas du tout. Thank you. Un enregistrement de 1927, Haydn, le final rondo alla ungarese de ce trio en sol majeur avec le trio Cortot, Thibaut, Casals. À 90 ans, il s'y est mis. Stephen Sondheim vient de s'inscrire sur Instagram. Il n'a rien publié pour l'heure, mais il a déjà des milliers de followers, de suiveurs. Stephen Sondheim, roi de la comédie musicale américaine. Triste sûrement aussi de voir ses théâtres de Broadway fermés jusqu'en septembre. Laurent Vallière va fêter les 90 ans de Sondheim dimanche à 13h sur la 42e rue de France Musique. Il recevra notamment Jean-Luc Choplin, l'ancien directeur du Châtelet, l'actuel directeur du Théâtre Marigny. Stephen Sondheim, classique, pas classique, peu importe. On sent en tout cas dans sa musique toute l'influence de ses maîtres, à commencer par les harmonies de Maurice Ravel. Stephen Sondheim, chanté par un chœur classique. Voici les Britanniques de Voices 8. Ils interprètent Losing My Mind de la comédie musicale Follies.
Sun comes up, I think about you. The coffee cup, I think about you. I want you so, it's like I'm losing my mind. Think about you. I talk to friends. I think about you. And do they know? It's like I'm losing my mind.
It's like I'm losing my mind.
But after living every little joy.
Spend sleepless nights to think about you. You said you loved me.
But were you just being kind?
Just being kind.
Or am I?
Losing My Mind de la comédie musicale Follies, interprétée et arrangée par les Voices 8, musique de Stephen Sondheim. Laurent Vallière célèbre les 90 ans de ce grand compositeur américain dimanche à 13h. France Musique, c'est l'heure de Classique Info. Avec Sophia Anastasio, bonjour Sophia.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est au tour du festival Berlioz à la Côte-Saint-André d'annuler son édition 2020. Elle devait se tenir du 18 au 30 août, mais cette fête coûterait fort cher, a déclaré son directeur Bruno Messina, citant le compositeur. Il ajoute « Le risque de la vie mérite qu'on attende jusqu'à l'été d'après, rendez-vous donc en 2021 ». Et en République tchèque, le printemps de Prague se tient lui en ligne gratuitement jusqu'au 8 juin. Une dizaine de concerts seront retransmis en direct et des archives du festival diffusées, notamment la 9e de Beethoven, dirigée par Leonard Bernstein en 1990 à la tête de l'Orchestre Philharmonique Tchèque. Producteurs, attachés de presse, régisseurs, les travailleurs de l'ombre du secteur culturel réclament de la lumière pour survivre à la crise. Rassemblés au sein du collectif Les Artisans du Spectacle, ils affirment que les annonces du président en faveur des intermittents vont dans le bon sens, mais ne concernent pas toute la profession. Ils réclament notamment une aide pour les travailleurs non salariés, c'est-à-dire sur le site du Figaro. Les scènes nationales de la région Nouvelle-Aquitaine ont quant à elles affiché leur soutien au Théâtre Auditorium de Poitiers, dont la subvention va être réduite de 100 000 euros pour 2020 par le Conseil régionale. Dans un courrier adressé au président de la région, elle déclare que cette baisse est intolérable. La région explique de son côté que ces diminutions sont à remettre en perspective du soutien apporté aux acteurs du spectacle vivant de Poitiers. En Belgique, toute manifestation culturelle, sportive et récréative restera interdite jusqu'au 30 juin, a indiqué la première ministre Sophie Wilmès. Cette semaine, plusieurs centaines d'artistes lui ont adressé une lettre ouverte réclamant des mesures extraordinaires pour soutenir le secteur et assurer un revenu pour chacun. Parmi les signataires figurent la chorégraphe Anne-Thérèse de Kersmaeker et Peter de Caluet, directeur de La Monnaie. Le mythique Hollywood Bowl, salle à ciel ouvert de Los Angeles, annule sa saison estivale de concerts, une première depuis son inauguration en 1922. Cela représente un manque à gagner de 80 millions de dollars pour l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles qui cogère le lieu. L'ensemble a déclaré devoir mettre une partie de ses employés au chômage technique. Les danseurs et le personnel des ballets de Monte Carlo ont quant à eux effectué des tests sérologiques de dépistage du Covid en vue d'une reprise d'activité progressive. Et en attendant une réouverture totale, l'Opéra de Monte Carlo vous propose de voir ou revoir sur son site des œuvres lyriques diffusées en épisode comme une série. Falstaff, La Bohème et Lucia di Lammermoor.
Classique Info, Sophia Anastasio, à lundi, Sophia. Allez, voici une belle découverte, notre nouveauté du jour. Elle est consacrée à Ernest Chausson. C'est un album d'ores et déjà disponible en numérique qui s'appelle Ernest Chausson, le littéraire, avec l'ensemble Musica Nigella, dirigée par Takenori Nemoto. On trouve deux œuvres célèbres de Chausson, sa chanson perpétuelle et puis son concert, mais aussi une rareté, la musique de scène pour La Tempête de Shakespeare. C'est une version de chambre, elle a été reconstituée à partir de fragments conservés à la Bibliothèque Nationale de France. Deux chanteuses viennent se mêler ici à l'ensemble instrumental, c'est la mezzo Eleonore Pancrasi et la soprane Louise Pinjou. Et le plus beau moment de cette musique de scène de La Tempête, c'est ce duo entre Junon et Cérès. Écoutez plutôt. Ernest Chausson, un duo extrait de sa musique de scène de La Tempête, les voix d'Éléonore Pancrazi et de Louise Pinjot, l'ensemble Musica Nigella, c'est un nouveau disque. Chausson, le littéraire, c'est son titre, paru chez Clart. France Musique, c'est l'heure de rejoindre notre invité.
Musique Matin à la maison, France Musique.
Et notre invité ce matin pour notre dernière émission faite à la maison, c'est Renaud Capuçon. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors il y a une piège chez vous que nous sommes des dizaines de milliers à connaître désormais, où chaque jour pendant ce confinement vous avez joué des pièces classiques, mais pas seulement, Piaf, Jean-Jacques Goldman. Ça fait du bien à beaucoup, beaucoup de monde, et pas seulement à ceux qui vous écoutent régulièrement, qui écoutent de la musique classique régulièrement. Est-ce que c'est ça qui vous a marqué, ce pouvoir apaisant, réconfortant de la musique pendant 2 mois?
Oui, je pense que c'est une chose dont on était tous conscients avant, mais qui a pris une dimension particulière. Je pense que tout artiste a eu une sorte d'introspection nécessaire et immédiate, je dirais, pendant, enfin, toute personne d'ailleurs, mais peut-être encore plus les artistes, parce qu'on est habitué à tellement voyager normalement, et là on a été un peu contraint de rester chez soi. Je pense que la musique, oui, a un pouvoir incroyable, et moi ce qui m'a fasciné, c'est de voir le nombre de gens qui ont suivi ces... Je n'aurais jamais imaginé que ça soit comme ça, et je l'ai fait vraiment de façon extrêmement spontanée au départ. La première fois, je l'ai fait vraiment pour moi, pour me permettre d'être vivant. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais tous les matins à 9h, je prenais mon violon, je jouais, et j'allais mettre en ligne quelques minutes plus tard. Et ça m'a sauvé, très franchement. Je pense que sans ça, j'aurais fait une dépression, ou j'aurais été pas bien. Ouais. Donc, très égoïstement, ça m'a aussi beaucoup aidé. Et je remercie milliers de gens qui m'ont laissé des messages, parce que j'ai été incapable de répondre, c'était avec trop. Et voilà, simplement de leur dire merci.
Renaud Capuçon, ces 2 mois, vous venez de le dire, ils vous ont ébranlé, interrogé, remis en question sur ce métier d'artiste, sur sa façon de l'exercer. Certains musiciens ici, même le matin, que vous connaissez bien, ont dit qu'ils allaient, par exemple, je sais pas, moins voyager à l'autre bout du monde pour donner un concert. Est-ce que c'est des choses qui vous ont travaillé aussi?
On est obligé de repenser les choses de fait. Alors bien entendu, la question de prendre l'avion, de prendre moins, de se déplacer de façon plus organisée, j'y pensais déjà avant, mais c'est vrai que ça nous a tous mis dans une situation où on se pose la question de façon plus précise, et je me suis aussi énormément occupé de penser à tous ceux qui sont vraiment dans le besoin, tous ceux qui ont du mal à payer leur loyer parce que les concerts se sont arrêtés, et ce n'est pas mon cas, donc j'en suis évidemment très heureux, mais c'est le cas de beaucoup, et c'est pour cette raison que j'avais fait cet appel au ministre de la Culture pour qu'il s'occupe vraiment des plus fragiles, et je pense que c'est en train de se faire, et en tout cas on fait tout pour que les plus fragiles soient vraiment aidés.
Ne pas faire de la culture le dernier wagon du déconfinement, c'est ce que vous aviez écrit dans le journal du dimanche. Alors justement, on se dit que ces prochaines semaines, ces prochains mois, pour la reprise des concerts, en tout cas en public, ça va être compliqué. Vous êtes le directeur artistique notamment du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, qui devait avoir lieu le mois dernier, qui est reporté d'un an. Il faut repenser aussi les choses autrement. Comment vous voyez ces prochains mois?
Bon, il y a eu la sidération, ensuite il y a eu la résilience, maintenant il y a l'action. Et je pense que nous tous, les musiciens, on a envie d'aller sur scène. Je crois que la question ne se pose pas, et c'est ce que j'ai voulu dire dans cette tribune au journal du dimanche, c'était donnez-nous une visibilité. On n'est pas idiots, on sait très bien que le Covid est présent, que c'est très compliqué. Voilà. Mais moi, je voulais vraiment montrer qu'on est dans l'action et qu'on veut remonter sur scène. On va trouver des solutions. Et il va falloir que chacun s'adapte, le public, les musiciens, les organisateurs. Mais si on met nos intelligences en commun et nos actions et nos énergies, je pense qu'on peut y arriver et faire en sorte que à la fois les artistes puissent survivre, parce qu'on en est là aujourd'hui pour beaucoup d'artistes, ils ont du mal à survivre, et puis pour que le public aussi retrouve lentement le chemin des salles de concert ou des lieux où la création musicale est présente.
L'une des solutions, Renaud Capuçon, en attendant que le public revienne, c'est des concerts sans public. C'est le cas à partir de demain à la Fondation Saint-Gerre-Polignac. Vous en êtes à l'initiative. Il va y avoir 40 artistes. C'est sur quasiment un mois. Ça commence d'ailleurs demain avec vous et Guillaume Bellhomme au piano. L'idée vous est venue comment? Et le direct, c'est fondamental?
Bah, l'idée est venue très simplement. J'ai regardé ce concert de Daniel Barenboim qui était sur Medici, dans sa salle Boulez qui était vide. Et j'ai immédiatement pensé qu'on pouvait imaginer la même chose à Paris. Donc j'ai appelé Hervé Boissière en lui disant pourquoi pas imaginer ça à la Fondation Polignac. Et j'ai mis en relation les gens de la Fondation Polignac qui ont été absolument formidables et Medici. Et on a fait plusieurs réunions par Zoom puisque Zoom est devenu le mot des plus utilisés par nous tous puisqu'on fait des Zooms toute la journée, des enfants à nous pour des réunions. Bref, tout ça pour dire qu'on a monté cette série et que c'est Hervé Boissière qui a fait la programmation. Et on s'est bien sûr basé sur énormément de résidents de la Fondation Saint-Germain-Polignac.
Il faut préciser d'ailleurs que ces concerts sont au profit de l'Institut Pasteur. Pour finir, Renaud Capuçon, il y a eu un moment important dans ces deux mois, c'était le 10 avril, vous avez joué à Notre-Dame de Paris pour célébrer Pâques. Ce moment-là, qu'est-ce qui vous en reste aujourd'hui? Je sais que c'est un moment qui vous a évidemment beaucoup marqué.
Oui, ce sera un des moments les plus forts, les plus marquants de ma vie, parce qu'il y avait à la fois ce Paris désert, Notre-Dame éventrée, et de la musique et des textes qui s'élevaient de cet endroit. Donc c'était un moment, oui, je ne trouve pas les mots. Franchement, je n'arrive pas à trouver les mots. On était habillés de façon totalement grotesque, avec des combinaisons blanches anti-plomb. On avait subi une heure avant une demi-heure d'une leçon sur le plomb, enfin, des choses protocolaires extrêmement lourdes. Ensuite, on a dû se désinfecter, on avait des sous-vêtements sous plastique. Enfin, tout ça était totalement bizarre. Et en même temps, à la fin, il y avait de la musique, des textes sublimes, et tout ça le vendredi saint, oui, donc c'était très fort.
Merci, merci beaucoup Renaud Capuçon, on vous retrouve dès demain 19h, c'est en direct, c'est important que ce soit en direct, c'est aussi ça la force du concert à la Fondation Saint-Germain-Polignac, c'est sur medici.tv avec Guillaume Bellum, il va y avoir 40 artistes, ça dure des semaines, et puis on vous retrouvera aussi à la Maison de la Radio, en juillet, avec des musiciens en formation de chambre de l'Orchestre National de France. Renaud Capuçon, Bach a été très présent pendant deux mois, quand chaque jour vous jouiez. Je propose qu'on se quitte avec lui, avec vous et avec David Frey. Merci beaucoup Renaud.
Merci à vous. Thank you.
Jean-Sébastien Bach, le deuxième mouvement Allegro de la troisième sonate pour violon et clavier, Renaud Capuçon au violon avec David Fray au piano. Voilà, c'est la fin de Musique Matin, c'est la fin aussi de cette semaine d'émission à la maison. Un grand merci à Benjamin Perru à la technique, à Claire Lagarde à la réalisation, à Max Dozolm, Marjolaine Portier-Keltenbach, Taïsia Froidure et Margot Muller à la coordination. Dans un instant, eux sont déjà en studio, en piste, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier, avec un hommage à l'école franco-belge de violon. Très bonne journée sur France Musique et à lundi, à la maison, de la radio.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.